Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du mercredi 10 juillet 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Signature aujourd'hui à Khartoum de l'accord sur la transition au Soudan, intervenu entre le Conseil militaire au pouvoir et la contestation.
En République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila obtient l'exclusion d'un frondeur de sa famille politique.
L'Union européenne annonce à Ouagadougou une aide additionnelle de 138 millions d'euros pour le G5 Sahel.
Les États-Unis prennent des sanctions contre deux députés du Hezbollah libanais, une première dans leur campagne de pression maximale sur l'Iran.
Et en sport, ne manquez pas les dernières nouvelles de la Coupe d'Afrique des Nations.
Pour l'instant, le journal.
Au Soudan, signature aujourd'hui à Khartoum de l'accord intervenu vendredi entre le Conseil militaire et les chefs de la contestation. Cet accord porte sur une présidence alternée de la future instance chargée de diriger la transition pendant 3 ans. Le point avec Irénée Herman Ungbo.
L'accord a été négocié vendredi par l'Union africaine et l'Éthiopie. Il doit conduire à la mise en place d'un conseil souverain composé de civils et de militaires. Ce conseil sera chargé de diriger une transition de 3 ans avant des élections. La présidence du conseil sera alternée entre un militaire et un civil. Par ailleurs, l'internet mobile a été restauré hier suite à une décision judiciaire. Depuis le début des manifestations, la contestation a réussi à mobiliser grâce en grande partie aux réseaux sociaux. Mais le 3 juin, l'internet a été coupé après une dispersion musclée d'un sit-in devant le quartier général de l'armée à Khartoum. Des dizaines de manifestants ont été tués et des centaines blessés. La contestation avait été déclenchée en décembre par le triplement du prix du pain. Les manifestations ont rapidement pris une tournure politique en réclamant le départ du président Omar El-Béchir qui dirigeait le pays d'une main de fer depuis près de 3 décennies.
En République démocratique du Congo, l'ex-président Joseph Kabila, patron d'une très vaste majorité parlementaire, a obtenu hier l'exclusion d'un frondeur qui ose défier son choix pour la présidence du Sénat. Précision de Jacques Aristide.
Le Front commun pour le Congo, le FCC, a suspendu pour une durée indéterminée le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, chef de l'une de ses composantes politiques. L'élu avait présenté la semaine dernière sa candidature au perchoir du Sénat face au ministre sortant de la justice Alexis Thambwe Mwamba, candidat choisi par Joseph Kabila, l'ancien chef d'État qualifié d'autorité morale du FCC. Pour la coalition, cette démarche dissidente porte gravement atteinte aux intérêts politiques du Front commun. La candidature de M. Thambwe Mwamba n'est pas du goût d'un collectif de la société civile qui rappelle son passé de rebelle. Quant au sénateur Bahati Lukwebo, il a déclaré qu'il maintenait sa candidature, ajoutant qu'il prenait son autonomie. Le patron du Sénat remplace le président de la République en cas d'empêchement du chef de l'État.
Au Cameroun, le procès des 10 leaders séparatistes anglophones va se poursuivre devant le tribunal militaire de Yaoundé. La décision a été prise au cours de l'audience d'hier, alors que les avocats de la défense avaient demandé une suspension de la procédure de Yaoundé. Précision de notre correspondant Emmanuel Juntap.
La décision prise mardi soir par le président du tribunal militaire de Yaoundé, le lieutenant-colonel Jacques Ndionemissé, a mis un terme à plus de 5 heures d'audience. Les avocats de la défense ont appelé à la suspension de la procédure. Selon eux, une requête de récusation des 2 assesseurs du président du tribunal est encore pendante à la Cour suprême. Les avocats de Ayouk Sisukutabé et des 9 autres leaders séparatistes ont introduit auprès de la Cour d'appel une demande de récusation des concernés. Cette demande a été rejetée sans être notifiée au demandeur. Une violation de procédure ont dénoncé les avocats de la défense. Le président du tribunal a ordonné que la notification soit faite aux accusés. Ils vont revenir à la barre le 23 juillet pour la poursuite de la procédure. Cette fois, le tribunal militaire de Yaoundé va se prononcer sur la recevabilité des procès-verbaux produits par l'État du Cameroun contre les 10 leaders séparatistes. Ayouk Tabé et les 9 personnes arrêtées au Nigeria ont assisté à l'audience d'hier sans prendre la parole. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Le djihadiste malien Alassane Ag Abdulaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud a commencé à comparaître ce lundi à La Haye devant les juges de la Cour pénale internationale. Ces derniers doivent décider s'il y a suffisamment de preuves contre lui pour aller jusqu'au procès. Alassane est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis à Tombouctou lors de l'occupation de la ville par Acmi et Ansar Din Diad Ag Gali. Notre correspondant Mamoudou Bokoum est à La Haye. Son compte rendu de deux jours d'audience.
À l'ouverture de l'audience, le procureur Fatou Ben Soudan a présenté ses observations orales. Avec son équipe, ils ont rappelé les charges contre l'accusé. Il s'agit notamment de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Des crimes commis à Tombouctou entre mars 2012 et janvier 2013 lors de l'occupation de la ville par Acmi et Ansar Din Diad Agarali. La défense de l'ancien chef de la police islamique a mis en cause le travail du procureur qui n'est pas fait, selon elle, dans les règles de l'art. En plus, Maître Malinda Taylor et Marie-Hélène Prou ont demandé la récusation du juge Reine Alapine Ganzou, une demande rejetée systématiquement par la Chambre. Au deuxième jour de l'audience, le bureau du procureur a présenté les documents visuels et écrits démontrant la responsabilité de Alhassan Ag Abdulaziz dans les crimes commis. La défense, quant à elle, présentera ses observations orales ce jeudi. C'est au juge de la Chambre préliminaire de déterminer s'il y a des motifs substantiels de croire que le suspect a commis ces crimes. Si cela se confirmait en tout ou en partie, l'affaire sera renvoyée devant une chambre de première instance qui devra organiser le procès en question. Mamoudou Bokoum à La Haye pour VOA Afrique.
L'Union européenne apportera une aide de 138 millions d'euros supplémentaires pour le financement de la force conjointe du G5 Sahel. Ces fonds additionnels ont été annoncés hier à Ouagadougou par la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, à l'issue d'une audience avec le président burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, aux côtés des ministres des Affaires étrangères des pays membres du G5 Sahel, réunis à Ouagadougou.
Au Nigeria, la police a ouvert une enquête à la suite d'une marche de protestation des membres du mouvement islamique nigérian. Deux membres des forces de sécurité ont été blessés par balle et six autres à coups de matraque et de pierre. La police a déclaré avoir arrêté quatre membres du mouvement qui ont tenté d'envahir hier le Parlement par la force.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, l'administration Trump a élargi mardi sa campagne de pression maximale sur l'Iran et ses alliés en imposant pour la première fois des sanctions contre des députés du Hezbollah libanais. Amin Sherry et Mohammad Hassan Raad sont accusés d'exploiter le système politique et financier du Liban au profit du mouvement chiite et de l'Iran. Une troisième personne sanctionnée est Wafik Safa, un proche du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah et chef de l'appareil sécuritaire du mouvement. Le Hezbollah a dénoncé ces sanctions américaines, les qualifiant d'humiliation pour le peuple libanais.
Le président Donald Trump s'est déchaîné hier contre l'ambassadeur britannique à Washington qu'il a qualifié, et je cite, « d'imbécile prétentieux ». Il réagissait, pour une nouvelle fois, à la fuite de câbles diplomatiques dans lesquels l'ambassadeur Kim Darroch dressait le portrait peu flatteur d'un président erratique à la tête d'une Maison-Blanche chaotique. M. Trump a simultanément réitéré ses attaques contre la première ministre britannique au sujet du Brexit.
Nouvelle colère de la Chine contre les États-Unis en pleine guerre commerciale. Pékin a exigé hier de Washington l'annulation immédiate d'une vente d'armes de 2,2 milliards de dollars à Taïwan, considérée comme partie intégrante de son territoire. Pour le département d'État américain, cette vente ne changeait rien à la position diplomatique de Washington, qui a rompu en 1979 ses relations avec Taipei afin de reconnaître Pékin comme seul représentant de la Chine.
Le nombre de migrants arrêtés aux États-Unis après avoir illégalement franchi la frontière avec le Mexique a baissé de 28% en juin par rapport à mai. C'est ce qu'a annoncé hier le ministère américain de la Sécurité intérieure. Il attribue cette baisse aux efforts concertés de l'administration Trump, à ses initiatives auprès du Salvador, du Guatemala et du Honduras, d'où viennent la plupart des migrants, et aussi aux mesures prises par le Mexique sous la pression de Washington.
Place maintenant à la Coupe d'Afrique des Nations avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de la CAN. Les quarts de finale commencent ce soir. Deux rendez-vous au programme à 19h temps universel. Les bourreaux sud-africains du pays hôte feront face au Nigeria, vainqueur du tenant du titre camerounais en 8e. Le coach des Super Eagles sait à qui ils auront affaire.
This is a match between two good football teams.
Il s'agit d'un match entre deux bonnes équipes de football. Nous les connaissons car nous avons joué contre eux déjà et nous les avons vus contre l'Égypte. Nous devons encore nous améliorer dans l'organisation. Je pense qu'ils ont également la possibilité de jouer de différentes façons. Ils doivent choisir quelque chose pour nous battre et nous aurons à faire pareil.
Guenot Ross, sélectionneur du Nigeria. Bien avant ce match, le premier quart de finale de cette CAN opposera à 16h temps universel la surprenante équipe béninoise au Lion de la Teranga. Solide face à l'Ouganda, le Sénégal a montré de la ressource et du talent, mais son sélectionneur ne veut négliger aucune équipe. Aliou Cissé.
Il n'y a plus de petites équipes sur le continent africain et je crois que cette CAN l'a montré encore que gagner en Afrique, c'est difficile. Aura tort ces équipes qui pensent que le match est déjà joué.
En face, les écureuils sont conscients du défi, comme le dit leur coach Michel Dussier.
On sait ce qui nous attend, on sait le défi que l'on a à relever, mais on a tout à gagner dans cette compétition et la pression, elle est plus sur les épaules du Sénégal qui postule au titre.
Bénin-Sénégal, c'est le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon.
Bonjour. Les quarts de finale de ce mercredi proposent des rencontres au profil très différent. Pour le choc anglophone, les anciens champions d'Afrique en deuxième heure, tout pronostic est interdit, tant ces équipes qui se retrouvent régulièrement en phase éliminatoire ou finale continentale et intercontinentale se rendent coup pour coup. Si leur brillante victoire dans les matchs de huitième de finale d'un autre niveau contre les Macédoines camerounais et égyptiens ont rehaussé leur cote, mais aussi mis à égalité leur chance auprès des parieurs. Par contre, l'affiche de la première heure entre le Bénin et le Sénégal paraît logiquement déséquilibrée. Les écureuils du Bénin sont certes courageux, prudents, solidaires, mais c'est plus pour éviter de craquer que pour s'imposer à un adversaire généralement plus entreprenant. Cela a été criard lors des matchs contre les favoris camerounais et marocains où la parité au score a surtout été préservée à cause des manquements des adversaires et des faits de jeu favorables. Ainsi, les Camerounais déjà qualifiés en phase de poule n'ont pas forcé et ont préféré tourner l'effectif. Les Marocains, incroyablement maladroits en huitième de finale, peuvent aussi déplorer l'absence de la VAR avec l'annulation d'un but et d'une occasion de marquer pour des hors-jeux finalement inexistants. Les Ghanéens en poule peuvent aussi se plaindre quant à l'exclusion précoce de leur défenseur de base John Boy, qui les a amenés à jouer à 10 et à réduire leurs ambitions dans une rencontre qu'ils prévoyaient gagner. Même si, pour tout cela, les écureuils ont le mérite d'avoir poussé l'adversaire à la faute et d'avoir fait preuve de courage et d'abnégation afin d'assurer l'essentiel, c'est-à-dire le résultat. Mais le mental sera-t-il suffisant face à un Sénégal mieux armé humainement, physiquement et techniquement? Pour autant, rien n'est joué à l'avance en matière de football. Si les Béninois arrivent à se surpasser et à faire déjouer par le jeu au sol les grands gabarits sénégalais, peu enclins à cet exercice, ils pourront alors réaliser le 4e siècle et se retrouver les premiers en demi-finale. À bientôt.
Ces cas se joueront avec un nouvel acteur, l'assistance vidéo à l'arbitrage, qui sera déployé à partir de ce stade de la compétition. Le foot africain a été ébranlé par le scandale de la finale retour en Ligue des Champions entre le Wydad Casablanca et l'Espérance sportive de Tunis fin mai, donné à rejouer après que les Marocains ont quitté le terrain en cours de partie pour protester contre une panne de la VAR. Cette technologie apparaît à la CAN, bonne ou mauvaise idée, les avis sont partagés. Salif Sané, défenseur du Sénégal.
Je suis pas trop fan de la VAR, mais bon, ça peut nous aider comme nous pénaliser. Donc après, voilà, on n'a pas le choix, on va faire avec. Mais bon, on va pas se fier à la VAR, on va jouer notre football et montrer ce que c'est le Sénégal.
L'absence de l'assistance vidéo à l'arbitrage a déjà fait des mécontents. Le coach ghanéen s'est plaint du manque de VAR lors du 8e de finale perdu contre la Tunisie. Un match durant lequel un but pour son équipe a été annulé pour une main inexistante.
Je pense que l'introduction de la VAR aidera des pays africains parce que si nous avions la VAR, on vérifie automatiquement le but marqué. Peut-être que le résultat aurait été différent.
C'était James Kwesi Appiah, sélectionneur du Ghana. C'est tout pour le journal de la CAN.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Gabon, pas de session d'examen de fin d'année à l'université Omar Bongo de Libreville. Le syndicat des enseignants en grève exige la titularisation et le reclassement de centaines de ses membres et l'harmonisation des grilles salariales pour tout le corps enseignant. Le mouvement affecte le calendrier académique de l'année. Les précisions de notre correspondant Ismaël Obiangze.
Sur le campus de l'université Omar Bongo de Libreville, le jeune Sylvestre Meigné du département de sociologie profite du repos obligatoire que lui impose la grève des enseignants pour jouer sa guitare.
À défaut d'aller en classe, puisque les sessions sont bloquées, on joue à la guitare.
Il y a un peu de ça. Ouais. Il y a un peu de ça. Normalement, on devait être en train de faire cours, mais à grève, on est obligé de s'occuper en jouant la guitare. Après, on a révisé, on est fatigué de réviser. On a fait le tour des cours. On attend maintenant les sessions. Ils grèvent sur les non-salariés, les pré-salariés et aussi les infrastructures au niveau de l'université qui ne sont pas adaptées.
Et vous vous sentez un peu pris en otage par ça?
Je ne pense pas qu'on est pris en otage. Je pense que c'est un mal nécessaire pour que les choses avancent.
Comme Sylvestre, beaucoup d'autres étudiants sont désemparés par la grève des enseignants du supérieur.
Déjà, nous sommes en période où on était censé passer des sessions. Et le moment où là, les devoirs ne sont pas... Parce qu'il y a des professeurs qui n'ont pas encore programmé les devoirs, c'est-à-dire les étudiants qui n'ont pas encore fait les devoirs.
Pour moi, je devais être en vacances, être au village auprès de mes parents. Mais comme on tient encore ici jusqu'à l'heure, là, je ne sais pas vraiment.
Tout porte à croire que ce débrayage qui affecte particulièrement l'université Omar Bongo de Libreville est loin de trouver une solution. Emmanuelle Nguéman, enseignante, membre du syndicat des enseignants des universités et grandes écoles du Gabon.
Rien n'a changé. Il y a eu une nouvelle grille salariale, les impôts ont augmenté, sauf qu'il n'y a aucune implication de cela sur les retraites. Et puis, il y a aussi
ça veut dire qu'aujourd'hui, un enseignant qui va à la retraite ne bénéficie pas des services rendus.
Oui. Bon, services rendus, c'est une autre histoire. Il y a aussi le point sur les services rendus, justement. Mais le problème de la retraite, c'est vraiment pour les fonctionnaires.
Pour le gouvernement, le droit à la grève est encadré par la loi, mais le ministre de l'Enseignement supérieur veut parvenir à quelques compromis avec les grévistes. Jean de Dieu, Moukagni, Iwango.
En respectant leur droit à la grève et en préservant aussi le droit à ceux qui estiment avoir à continuer le travail, que ces obligations-là, qui sont toutes légales, soient observées pour conforter à la fois le droit syndical et montrer à la face du monde que le syndicalisme au Gabon est un syndicalisme républicain et citoyen.
Ces assurances n'ont pas convaincu les enseignants grévistes. Le SNEC vient de reconduire son mouvement pour 2 semaines tout en restant ouvert aux négociations. Libreville, Ismaël Obiangze, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En Afrique de l'Ouest, les inégalités ont atteint un niveau de crise. Tel est l'avertissement lancé par Oxfam. Alors qu'un nombre faible d'individus s'enrichit de manière inouïe, l'immense majorité de la population se voit privée des éléments les plus essentiels à une vie digne, tels qu'une éducation de qualité, des soins de santé et un emploi décent, et cela en dépit d'un essor économique remarquable sous l'impulsion des industries extractives. Morgan Guiriec a joint à Dakar Susanna Ruiz, responsable du pôle justice fiscale d'Oxfam International.
On voit que le 1% de l'Afrique de l'Ouest a un niveau de concentration de richesse qui correspond au reste de la région, donc du 99% restant. Que les pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana vont augmenter de 40% à peu près cette concentration de richesse dans les années à venir. On ne voit aucune tendance qui nous permette de dire que ça va se traduire dans une réduction des inégalités, à moins qu'il y ait une volonté politique de faire pour mettre en place des mesures qui permettent de freiner cette concentration et de distribuer davantage la richesse qui se crée.
Alors ces pays ont un essor économique remarquable, c'est une bonne nouvelle d'après les économistes, qu'en dites-vous?
Absolument, nous voyons comme un point très positif le fait que l'on puisse retrouver des pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana ou le Sénégal parmi les économies qui ont un taux de croissance le plus impressionnant au monde et même en Afrique. Mais ce qui nous inquiète, c'est de voir que cette croissance se produit alors qu'il y a en même temps cette poussée des inégalités. Donc les deux effets en même temps vont risquer risque de créer des tensions au niveau social parce que à terme, on va se retrouver avec des sociétés plus polarisées qui risquent d'interférer aussi sur la capacité des pays à lutter contre la pauvreté. Notre préoccupation n'est pas sur les niveaux de croissance, mais sur le fait que cette croissance ne soit pas une croissance qui permette une plus grande redistribution des bienfaits qui sont produits.
Alors comment remédier à ces inégalités grandissantes ?
Entre autres, d'augmenter l'investissement en politique sociale, notamment en éducation et en santé, et en protection sociale, et de retravailler sur le système fiscal pour qu'il permette de capter davantage pour augmenter l'effort fiscal qui est dans les pays, mais surtout de ceux qui en ont plus la capacité pour redistribuer davantage. Et de travailler aussi en même temps au niveau du marché de l'emploi pour réduire l'informalité et garantir que ce marché de l'emploi est porteur, mais aussi dans un sens qui permette d'assurer des emplois de qualité et dignes à la plus grande partie de la population.
Comment expliquer l'importance de ces inégalités en Afrique de l'Ouest ?
Ce niveau des inégalités se traduit dans la vie quotidienne des personnes. Ce ne sont pas simplement des chiffres froids. Par exemple, au Mali, une femme qui vient des familles les plus riches aura 15 fois plus de chances d'avoir accès à un niveau d'éducation secondaire que si elle était issue d'une famille plus pauvre. Au Nigeria, pareil, une femme qui soit issue d'une famille plus pauvre aura 26 fois moins de chances d'accéder à l'école que si elle provenait d'une famille plus riche. Dans cet écart entre les conditions de vie, l'égalité d'opportunités, les mêmes opportunités pour les uns et pour les autres, moins de possibilités d'accès à une couverture de santé.
Susanna Ruiz, responsable du pôle justice fiscale d'Oxfam International.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Les Soudanais continuent de se réjouir de l'accord conclu vendredi dernier entre les généraux de l'armée et la contestation sur une instance de transition, premier signe de sortie de crise après des mois de tension. L'ONU a salué le geste, mais reste prudente. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a ainsi appelé hier au dialogue entre les deux camps. C'était lors d'un débat au Conseil de sécurité des Nations des droits de l'homme à Genève, d'où Lisa Schlein nous a envoyé ce reportage repris ici par Jacques Aristide.
Après deux nuits de pourparlers, le conseil militaire au pouvoir depuis la destitution du président Omar El-Béchir le 11 avril dernier et les meneurs du mouvement de protestation se sont accordés sur une présidence alternée de la future instance appelée à diriger la transition pendant 3 ans. Pour le sous-secrétaire général aux droits de l'homme, il s'agit d'une démarche encourageante. Andrew Gilmore félicite l'Union africaine et l'Éthiopie pour leur médiation. Il ajoute toutefois qu'il faut beaucoup de persévérance et un engagement sincère pour que l'accord porte ses fruits, surtout après des mois de manifestations violentes, lesquelles ont fini par aboutir au coup d'état militaire contre Béchir.
Following the removal of President al-Bashir from office.
Après la destitution du président Béchir, la haut-commissaire n'avait pas manqué de souligner que la crise au Soudan trouve ses racines dans des griefs relatifs aux droits de l'homme, droits économiques, sociaux, civils et politiques non respectés, et que par conséquent, la solution doit également être ancrée dans les droits de l'homme.
Andrew Gilmore dit noter que la fin de règne d'Omar El-Béchir n'a pas mis un terme à la violence et aux abus dans le pays. D'après lui, il y a eu une répression violente des manifestations, tandis que plus d'une centaine de manifestants ont été tués par les forces de sécurité le 6 juin dernier. Les civils opposés au maintien du régime militaire, dit-il, ont été victimes de violations généralisées des droits de l'homme.
Nous encourageons toutes les parties au Soudan à continuer à résoudre les problèmes en suspens par le dialogue. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme se félicite de l'accord conclu la semaine dernière et qui prévoit l'engagement de mener une enquête indépendante sur les violences perpétrées contre des manifestants pacifiques. Il est important que les enquêtes contribuent à la justice et à la dignité de toutes les victimes de ces violences.
Pour Osama Humeida du ministère soudanais de la justice, le Conseil militaire est déterminé à faire respecter tous les mécanismes de défense des droits de l'homme. Il s'est exprimé par le truchement d'un interprète.
Le Soudan vit un véritable changement vers une transition du pouvoir à la suite d'une remarquable révolution populaire qui a changé la donne sur le terrain. En cette nouvelle ère, le Soudan se réjouit de la coopération et du soutien de la communauté internationale afin de relever les défis auxquels il est confronté dans tous les domaines.
Osama Humeida croit qu'il est temps que les sanctions unilatérales imposées à son pays soient levées. Il appelle également à l'annulation de la dette extérieure qui paralyse le Soudan, dit-il.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Gouvernements et organisations internationales ont condamné l'attentat à la bombe de la semaine dernière contre un centre de détention pour migrants en Libye, attentat qui a tué plus de 50 civils et en a blessé au moins 130 autres. L'horrible incident, c'était un bombardement, n'a toutefois pas dissuadé les migrants désespérés qui souhaitent toujours effectuer ce dangereux voyage vers l'Europe. Le point dans ce reportage de Heather Murdoch à Tripoli qui, sur la base d'une vidéo, nous raconte cette tragédie. Le récit avec Irénée Herman Ungbo.
Cette vidéo provient d'un manifestant migrant qu'il a filmé en secret et l'a transmise à la VOA via les médias sociaux. Les manifestants sont à l'extérieur de ce centre de détention depuis près d'une semaine parce que les locaux dans lesquels ils étaient hébergés ont été détruits lors du bombardement. Pancarte en main, ils expriment leur détermination. Nous n'attendons que la mort et pas d'humanité. Les manifestants exigent leur libération et le passage en toute sécurité de la Libye.
Nous n'allons pas rester ici. Nous devons traverser la Méditerranée. Cela ne signifie pas que nous allons faire du terrorisme. Nous avons fui nos pays.
À quelques kilomètres de là, vivent à la Belle Étoile d'autres familles qui n'ont nulle part où aller. La plupart d'entre elles ont fui la guerre et le génocide au Soudan. Après leur arrivée en Libye, elles ont ensuite été chassées de leur logement d'urgence. Leur maison à Tripoli se trouve toujours dans une zone de guerre. Écoutez le témoignage de Naïma.
La maison n'est pas du tout bonne. Il n'y a pas de porte, pas de fenêtre. Ce n'est pas sécurisant de rester là.
Dans un centre de détention situé en banlieue, femmes et enfants languissent dans l'espoir d'être libérés. Certains ont fui la pauvreté extrême au Nigeria et sont victimes de trafic d'êtres humains. S'ils ne payent pas aux trafiquants des dizaines de milliers de dollars pour leur voyage en Europe, ils croient qu'ils seront maudits. Merci, tante, d'expliquer.
Soit vous allez mourir, soit vous devenez fou et vous serez une personne inutile. Vous serez fou. Crazy.
Traverser l'Europe devient beaucoup plus difficile, indique Merci, pointant du doigt la fermeture des ports et le sentiment anti-migration que ne cessent de nourrir les Occidentaux. Mais comme de nombreux migrants, pour elle, il n'y a pas de retour possible.
Abdourahmane Dia avec vous dans Washington Forum. Cette semaine, retour sur la crise migratoire à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. La haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, s'est dite choquée par les conditions de détention des migrants aux États-Unis. Mais les autorités américaines estiment que les migrants sont bien traités dans ces centres et mettent plutôt en cause le nombre croissant de personnes effectuant la traversée. Parmi ceux qui tentent cette aventure, il y a de plus en plus d'Africains. Nous allons évoquer tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel. Vous pouvez également réagir sur la page Facebook de VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h temps universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout. Comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Calvin Fowler. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.